lost my name in a Tokyo kiss. I lost my name. I lost my name in a Tokyo kiss.
Cette chanson, c'était Tokyo Kiss, chantée par Arthur H.
En une du Journal de Montréal, elle retrouve son père dans la rue. Procès de Lac-Mégantic, voici la lettre de suspension de Harding qui a été cachée au jury. La lettre que le jury n'a pas vue. Tom Harding avait été suspendu en 2008 parce qu'il n'avait pas mis de frein à main sur un terrain. Le 2 juillet 2008, Tom Harding et l'ingénieur avec qui il travaillait ont immobilisé 58 wagons sur une voie de liaison à Saint-Jean-sur-Richelieu. On apprend dans une lettre obtenue par le Journal de Montréal que Harding, qui agissait comme chef de train, n'avait mis aucun frein à main et pas suffisamment de frein à air sur le convoi qui est allé percuter un autre train. Les conséquences de cette collision auraient pu menacer votre sécurité, celle de votre ingénieur, d'un employé de Rail Power Technology et des citoyens innocents de Saint-Jean, a notamment écrit John W. Schultz, qui était alors vice-président transport à la MMA. La couronne souhaitait déposer cette lettre et la suspension en preuve pour montrer au jury composé de 8 hommes et 4 femmes que Tom Harding connaissait le règlement sur la sécurisation des trains, ce qu'il n'a jamais nié, même s'il ne l'a pas parfaitement respecté le soir du 5 juillet 2013. Cette lettre a été exclue de la preuve par le juge Gaétan Dumas. Il considérait qu'elle serait trop préjudiciable envers M. Harding, accusé de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes. Il a expliqué au jury qu'il devait juger les actions de M. Harding le jour des événements. Maintenant que le jury est séquestré, l'ordonnance de publication a été levée. Harding a donc purgé 5 jours de suspension sans solde après ces événements et a été mis en probation pour 1 an. S'il ne sécurisait pas bien ses trains de nouveau, il purgerait 5 autres jours de suspension en plus de nouvelles sanctions, apprend-on dans la lettre. Presque 5 ans jour pour jour après sa suspension, Tom Harding a de nouveau arrêté un train dans une pente à Nantes. Cette fois, il avait mis assez de freins à air, mais pas suffisamment de freins à main. Après un incendie dans la locomotive de tête, le train a dévalé une côte avant de dérailler et d'exploser au centre-ville de Lac-Mégantic le 6 juillet 2013. Elle retrouve son père après 10 ans. Cathy Beauchemin Daviaud avait presque perdu espoir de revoir son père disparu sans laisser de traces il y a 10 ans pour vivre dans la rue. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur une photo de lui dans le journal la semaine dernière et décide de repartir à sa recherche. Hier, entre les larmes et la joie, elle a enfin retrouvé celui qu'elle appelle son idole. « J'ai appelé les postes de police, les prisons, les hôpitaux, j'ai fait du porte-à-porte, mais il était introuvable », relate la femme de 29 ans. En ouvrant le journal le 3 janvier, elle est tombée sur un reportage racontant l'histoire de sans-abri qui ont décidé de rester dans la rue à Montréal malgré la grande vague de froid. Normand Beauchemin était l'un d'eux, l'homme de 50 ans au visage émacié, a choisi de vivre en nomade à sa sortie du pénitencier en 2007. Il dort maintenant dans une boîte en carton dans un coin caché de la ville. L'auteur de ces lignes, donc le journaliste Benoît Filly, lui a donné rendez-vous à la fille hier matin au refuge de Open Door sur le bord, le boulevard René-Lévesque, où le sans-abri a l'habitude d'aller manger. Son père, à l'intérieur, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Quelqu'un m'a dit « Il y a une belle fille qui veut te voir ». Je pensais qu'il me niaisait, dit-il, avec un sourire. Je suis sorti, mais je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Une seconde plus tard, il sautait dans les bras de sa fille en larmes. Normand s'est ensuite rendu chez sa fille à Saint-Hyacinthe où il a passé du temps avec ses 4 petits-enfants, dont 2 qu'il n'avait jamais rencontrés. Des problèmes de communication seraient à l'origine d'un 2e incident qui aurait pu mener à une catastrophe aérienne à l'aéroport de San Francisco impliquant des vols d'Air Canada selon les autorités américaines. Le 22 octobre dernier, un Airbus 320 en provenance de Montréal se trouvait à moins de 2,1 km de la piste d'atterrissage lorsque le contrôleur aérien a ordonné à l'avion de ne pas atterrir en raison de la présence d'un autre appareil sur la piste. Puisque l'équipage d'Air Canada ne répondait pas, le contrôleur a répété 6 fois l'ordre de modifier sa trajectoire. Ces ordres n'ont pas été entendus. Le pilote avait finalement atterri sans causer de dommages. Le pilote a déclaré avoir eu l'autorisation d'atterrir avant une modification de la fréquence radio, sans préciser qui avait changé de canal ni pourquoi. La piste en vue était libre, j'ai atterri. C'est après que nous avons découvert que la tour avait essayé de communiquer avec nous, mais nous n'avons rien entendu, peut-on lire dans le rapport d'enquête. Des intéressés pour les pâtisseries de Gascogne, le chef pâtissier Christian Faure et l'entreprise portant son nom ont annoncé hier leur intérêt à racheter ce qu'il reste de l'entreprise fondée par Francis et Lucie Cabane en 1952. Nous ne pouvons qu'espérer que l'œuvre de Francis Cabane, fondateur des pâtisseries de Gascogne, aura toujours sa place à Montréal et ne sera pas remplacée par une pâle copie industrielle. Les détails de l'offre faite au syndic n'ont pas été révélés. Le journal dévoilait jeudi que les fondateurs de l'entreprise familiale avaient été forcés de poursuivre leur propre fils en novembre afin de récupérer des sommes qui leur étaient dues. Le gouvernement haïtien et ses partenaires internationaux ont lancé hier un appel de financement à hauteur de 252 millions de dollars afin de répondre aux urgences humanitaires pour l'année 2018. En 2017, Haïti a été épargné par les catastrophes naturelles qui ont été dévastatrices pour certaines îles de la Caraïbe, mais le pays reste en proie à une situation humanitaire inquiétante car les conséquences des catastrophes passées n'ont toujours pas été résorbées. 8 ans après le séisme qui a tué plus de 200 000 personnes et ravagé Port-au-Prince, plus de 38 000 sinistrés vivent encore dans des camps de fortune. Par ailleurs, 1 an après le passage de l'ouragan Matthew sur le sud, plus d'un million de citoyens ont toujours besoin d'assistance. De plus, les expulsions d'Haïtiens de la République dominicaine se poursuivent à un rythme effréné. Près de 230 000 personnes ont besoin d'assistance pour réintégrer leur communauté. L'Équateur a annoncé avoir naturalisé Julian Assange, le créateur australien de Wikileaks, réfugié depuis 2012 dans son ambassade à Londres, afin de tenter de lui obtenir un statut diplomatique et trouver une solution à cette situation de plus en plus délicate pour le pays andin. Cette naturalisation a été accordée le 12 décembre 2017. Le gouvernement équatorien a le droit d'accorder la nationalité équatorienne à la personne qu'il protège et faciliter ainsi son intégration au sein du pays qui le reçoit, a dit M. Espinoza, Madame Maria Fernanda Espinoza, qui est chef de la diplomatie équatorienne. Le fabricant haut de gamme de soutien-gorge Rigby & Peller a perdu son statut de fournisseur officiel d'Élisabeth II pour avoir eu l'indiscrétion de révéler les dessous de la lingerie royale, affirme la BBC hier. A affirmé la BBC hier, aurais-je dû lire, mais c'était écrit ainsi. Selon la BBC, cette décision est intervenue à la suite de la publication d'un livre titré « Tempête dans un bonnet D » par June Kenton, 82 ans, qui avait la charge des essayages de soutien-gorge de la reine. Madame Kenton a affirmé qu'il n'y avait rien dans ses mémoires susceptible d'offenser la famille royale. Elle y décrit sa première session d'essayage dans les années 1980, avec une Élisabeth II à moitié dévêtue, et y dévoile une anecdote racontée par la mère de la reine. Le palais de Buckingham lui a annoncé il y a 6 mois qu'il n'avait pas aimé le livre et avait l'intention de retirer son mandat royal à Rigby & Peller, a-t-elle expliqué à la BBC.
Thank you.
un grand classique de Pagliaro, chanté ou interprété ou revisité par Alexandre Desilets, M'Lady ou My Lady.
Les journaux régionaux maintenant, dans le droit, sous la plume de Louis-Denis Ebacher, Alzheimer laissé seul pendant 14 heures. Tout n'est pas rose dans le secteur privé de la santé qui souffre lui aussi de la pénurie de main-d'œuvre observée dans le système public. Un couple de Chelsea le constate avec désarroi depuis 6 mois alors qu'une de leurs proches atteinte de la maladie d'Alzheimer a été laissée à elle-même pendant 14 heures dans sa chambre d'une résidence pour personnes âgées de Gatineau. La vie de Penelope Ellis, 76 ans, a basculé en mai dernier à la suite d'une crise cardiaque déclenchant chez elle la maladie d'Alzheimer. D'une personne âgée autonome se rendant à l'église 4 fois par semaine, elle est devenue une toute autre personne. Résidente au château Sims, S-Y-M-M-E-S, dans le secteur Elmer, elle est passée de l'étage des personnes autonomes à celui des gens incapables de subvenir à leurs besoins de base. Tout s'est bien passé pendant les 2 premières années, dit sa belle-sœur Colleen Gifford. Elle résidait déjà à cet endroit, alors nous avons décidé d'y rester. L'affreuse maladie a fait ses ravages, désorientation, perte de mémoire et incontinence. Entretenant des doutes sur les soins que Mme Ellis recevait, la famille a placé 2 caméras dans la chambre au sud de la direction du château Sims. Ces caméras s'activent lorsque des mouvements sont décelés. C'est à ce moment que nous avons constaté qu'elle avait passé une nuit entière seule, sans surveillance. Nous l'avons trouvée le lendemain dans ses excréments. Il y en avait partout. Et personne n'était intervenu pendant tout ce temps, raconte Mme Gifford. Selon elle, Mme Ellis est restée seule de 20h à 10h une nuit d'octobre. Le personnel est senti faire des vérifications toutes les 2 heures, déplore-t-elle. Elle aurait par ailleurs été laissée à elle-même dans un lit et des vêtements souillés. Ma femme a dû la laver le lendemain et nettoyer la chambre. À qui de faire le travail, demande le frère de la résidente, Ned Ellis. La famille craint que d'autres situations semblables se soient produites. « J'ai l'impression que je dois former le personnel quand j'y suis », indique Mme Ellis. Il nous a fallu engager une préposée à temps partiel pour s'assurer que Penelope, reçoive plus d'aide. Depuis le mois de juin, la famille a écrit à plusieurs reprises à la direction pour se plaindre du manque de propreté dans la chambre. La directrice générale de la résidence, Marie-Andrée Mallette, dit être au fait de la situation et mentionne qu'un plan d'intervention a été élaboré avec la famille. « Mon enquête n'est pas terminée, mais nous prenons cette situation au sérieux », explique Mme Mallette. « Si vous appelez partout, vous constaterez que c'est un domaine où il y a pénurie de main-d'œuvre. C'est ainsi partout dans le domaine de la santé. Il arrive qu'on n'est pas capable de remplacer les employés qui sont absents en congé de maladie. Je dis souvent aux familles que je n'ai pas d'arbre à l'extérieur qui fait pousser des préposés. Par ailleurs, plusieurs préposés sont de nouveaux arrivants qui ne comprennent pas assez bien la langue du pays d'accueil, selon Mme Gifford. Le secteur privé ne devrait pas s'occuper des cas comme ceux-là, affirme Mme Ellis. On constate en tant que client anglophone qu'il existe une barrière de la langue avec les employés. Je comprends, dit Mme Mallette, que l'on a parfois à gérer différentes cultures, des gens qui n'ont pas la même approche avec les résidents. Le couple affirme cependant pouvoir communiquer adéquatement avec la direction. Marie-Andrée Mallette admet que personne n'est parfait, mais qu'il n'existe pas 1001 solutions. Je comprends très bien leur frustration, mais ce matin, Penny est bien et de bonne humeur. La directrice explique que les résidences privées sont comparées aux soins à domicile aux yeux du gouvernement et que les subventions ne sont pas les mêmes que dans le secteur public. Brochu dans la tribune, le centre de tri déborde. Le froid polaire des dernières semaines a nui aux travailleurs, au travail des employés de Récup Estrie. Ceux-ci ont dû prendre plus de pauses pour se réchauffer, ce qui occasionne aujourd'hui un surplus d'entre 800 et 1000 tonnes de matière qui est entreposée derrière la bâtisse. Comme les portes sont ouvertes, le froid entre dans le centre, explique la directrice générale de Récup Estrie. Il faut que les employés prennent au moins 10 minutes par heure pour se réchauffer. Les quarts d'heure de travail ont été productifs à environ 50 %, ce qui veut dire que sur un quart de travail de 8 heures, les employés en travaillaient 4. Les mouvements étaient nombreux dans le centre de tri jeudi alors que les camions ne cessaient d'entrer. Du temps supplémentaire est même prévu afin de reprendre le temps perdu. On a dû mettre de côté une bonne partie de la collecte qui rentre au centre de tri, dit la directrice générale, Mme Sepa Zalari. On est en pleine opération actuellement. En général, on finit à 17 heures, mais vendredi, ce sera à 20 heures. On va prendre le dessus. Dans la tribune, toujours sous la plume d'Alain Goupil, cette fois, le directeur général de Centraide, Estrie, Claude Forgue, tire sa révérence pour se lancer de nouveau en politique. Après 37 ans à la barre de l'organisme, celui-ci quittera ses fonctions en juin afin de se porter candidat à l'investiture du Parti québécois dans Saint-François en vue des élections générales du mois d'octobre. Âgé de 67 ans, Claude Forgue n'en sera pas à ses premiers pas sur la scène politique québécoise. Lors du scrutin de 2007, il avait défendu les couleurs du Parti québécois dans la circonscription de Sherbrooke face au chef du Parti libéral, Jean Charest. Son nom avait alors fait le tour du Québec lorsque Radio-Canada l'avait déclaré élu, avant de se rétracter une heure et demie plus tard après avoir constaté que le vote par anticipation n'avait pas encore été dépouillé. 10 ans plus tard, les gens m'en parlent encore, rigole M. Forgue au sujet de cette élection prématurée. Dans le Nouvelliste, Marc Rochette, l'accord à l'ABI, colère et inquiétude, Bécancourt. C'est un réveil brutal qui attendait jeudi matin le millier de travailleurs de l'aluminerie de Bécancourt, alors qu'en pleine nuit, à 3 heures du matin, la direction avait décrété un lock-out après le rejet de l'offre finale et globale par plus de 80 % des syndiqués la veille. Ceux-ci ont donc été confinés à l'extérieur de l'usine, se massant rapidement près des roulottes déjà installées depuis un certain temps autour du site, faisant le va-et-vient jusqu'aux portes de l'aluminerie et se réchauffant autour d'un feu. Pour l'occasion, la rue Pierre-Thibault a rapidement été transformée en stationnement improvisé et des véhicules de la Sûreté du Québec y circulaient régulièrement. Depuis le matin, les intervenants du milieu souhaitaient un retour rapide au dialogue en évoquant l'impact majeur d'un conflit chez cet employeur. Or, l'intervention du conciliateur-médiateur n'aura pas tardé, celui-ci ayant convoqué les parties pour une rencontre en après-midi. « C'est un conflit privé. On souhaite un règlement le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on met le ministère du Travail à la disposition des deux parties. C'est le cas actuellement. Il y a un conciliateur-médiateur qui est au dossier et 19 rencontres de conciliation ont déjà eu lieu », a indiqué au Nouvelliste Florent Tanlet, attaché de presse de la ministre responsable du Travail, Dominique Vien. Selon son porte-parole, ce sont les événements survenus au cours des dernières heures qui ont provoqué cette rencontre des parties patronales et syndicales en présence du conciliateur au dossier, pour, dit-il, continuer à essayer de s'entendre. Le médiateur suit la situation de près. Ce qu'on peut dire aux deux parties, c'est de négocier le plus possible parce qu'il faut en arriver à une entente le plus tôt possible. On veut que ça se règle vite, autant pour l'employeur que pour les employés, a fait savoir M. Tanlet. La section locale 9700-9700 du syndicat des métallos a dénoncé le lock-out décrété par la direction d'ABI avec l'aval de Rio Tinto et Alcoa. « C'est un geste cavalier. Nous venions de tendre la main pour négocier. Plutôt que de retourner à la table de négociation, ABI va plus loin dans sa tentative de coup de force en déclenchant un lock-out sans avertissement en plein milieu de la nuit », a commenté le président syndical Clément Mas. Le temps va vite, il nous reste une demi-heure à passer ensemble à l'émission Le quotidien des quotidiens avec les actualités culturelles et la section Sujets libres. À tout de suite.